coupait leur ville en deux, le mur de la honte qui s'écroulera 28 ans plus tard en 1989. On appellera notre correspondant à Berlin, David Philippot, qui nous racontera cette journée. Et puis on va se poser cette question, où sont les nouveaux murs? On aurait pu croire que la chute du mur de Berlin allait sonner la fin de ce type de méthode, pas du tout. On compte encore une quinzaine de murs dans le monde entier, des murs qui sont érigés pour empêcher les mouvements migratoires. Et on va en parler tout au début de cette édition de Forum avec Étienne Piguet, professeur de géographie à l'université de Neuchâtel et spécialiste des mouvements migratoires. Le bras de fer se durcit entre le FC Sion et la Swiss Football League alors que la première équipe du FC Sion joue en ce moment contre Lucerne. Le club valaisan a vigoureusement dénoncé la non-qualification de plusieurs dizaines de juniors du club. Les explications vers 18h10 de Pascal Turner. Dans une dizaine de jours, l'Union syndicale suisse devrait annoncer sa volonté de demander des hausses de salaire substantielles, et cela malgré la crise financière et le franc fort. Alors est-ce le bon moment pour faire ce type de proposition? Des salaires plus élevés, cela ne risque-t-il pas d'aggraver encore la situation économique? On va poser la question au syndicaliste Aldo Ferrari vers 18h15. Le festival de Locarno a connu le succès public cette année avec une progression de 10% de spectateurs. À 2 heures de dévoiler le palmarès de cette édition 2011, Olivier Père, le directeur, viendra faire un premier bilan dans une vingtaine de minutes. Les Vaudois vont-ils obliger les communes de plus de 3000 habitants à pratiquer le système proportionnel au lieu du système majoritaire? Les petites communes vont-elles perdre leur âme et se politiser plus qu'il n'en faut? Le peuple se prononce le 4 septembre prochain et on en débat tout à l'heure avec le radical Gilles Maistre et l'UDC Dylan Carlen. En deuxième partie de Forum, notre rubrique du net, écran total et le journal des sports avec du football version terrain cette fois-ci. Et on évoquera également Sierzinal qui a lieu demain. Profitez du soleil, il est encore présent ce soir, puis demain matin, après, place aux nuages et aux averses, la météo complète de Stéphanie Kohler en fin de Forum.
Forum, Laurent Caspary.
L'Allemagne a commémoré aujourd'hui le 13 août 1961. Ce matin-là, les Berlinois se réveillaient avec un mur, le mur de la honte qui divisera la capitale allemande durant 28 ans. À midi pile aujourd'hui, les cloches de toutes les églises ont sonné. Les trains, les voitures, tout s'est arrêté pour une minute de silence en souvenir des victimes. Et ce soir, un certain nombre de cérémonies non officielles se poursuivent où la parole est donnée aux témoins de l'époque, David Philippot.
Oui, c'est ça. Les anonymes ont pris la place des officiels. C'est l'heure des conférences et des débats sur la guerre froide avec, sur les podiums ici, Bernard Wachstrasse, des témoins au sens large, des victimes de la répression, des résistants au système communiste ou des passeurs. Et les conférences sont extrêmement suivies par un public très large, beaucoup de monde également pour assister à l'exposition en plein air qui a été inaugurée aujourd'hui, une journée de commémoration et d'information à mettre en relation avec une polémique née cette semaine autour d'un sondage. Pour un Berlinois sur trois, le régime de RDA avait, je cite, de bonnes raisons de construire le mur pour participer à la stabilisation de la région, une tendance à la relativisation du passé qui a été condamnée par le maire de Berlin qui a déclaré au cours des cérémonies officielles, il n'y a pas d'excuse pour les nostalgiques, a dit fermement Klaus Wowereit, et il n'y a pas de bonnes raisons de construire un mur au milieu des peuples.
Et David Philippot, cette journée était entièrement dédiée aux victimes du mur.
Oui, c'est ça. 136 personnes ont trouvé la mort à Berlin en tentant de gagner la liberté, en défiant ce rempart construit par le régime communiste pour stopper l'exode des Allemands de l'Est. En tout, 100 000 personnes ont tenté ou réussi de se faire la belle, si je puis dire, jusqu'à la chute du mur. Et c'est aussi le sens du message adressé par Berlin au monde, vers les pays arabes, vers Israël et la Palestine, ou vers le Mexique et les USA. Les régimes peuvent essayer d'emprisonner des peuples, mais la liberté est invincible, comme l'a dit le président de la République fédérale allemande, Christian Wulff.
Voilà, David Philippot, notre correspondant à Berlin. Étienne Piguet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes professeur de géographie à l'université de Neuchâtel. Vous êtes spécialiste des migrations. Alors, on l'a entendu, hein, le message du maire de Berlin. Il y a encore des murs aujourd'hui. On aurait pu imaginer que le modèle du mur de Berlin allait cesser en 1989. Pas du tout. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Bah, hélas, en effet, des milliers de kilomètres de murs se sont construits depuis la chute du mur de Berlin. Et ces murs ont principalement, souvent, pour vocation effectivement d'arrêter des migrants. Pas seulement, on peut avoir des murs qui ont une vocation sécuritaire, une vocation liée à des conflits, le mur entre les deux Corées par exemple. Mais c'est vrai que ces murs contre les migrants se sont construits dans la plupart des régions du monde. Et il est vrai qu'ils ont une certaine efficacité. malheureusement peut-être, mais le fait est que c'est plus facile d'empêcher quelqu'un d'entrer que de mettre quelqu'un dehors une fois qu'il est sur le territoire.
Alors peut-être quelques exemples. Alors il y a le fameux mur Palestine, mais pas seulement. Il y a le plus long, c'est lequel ?
Alors le mur de la frontière américano-mexicaine est tout à fait impressionnant parce que lui a vraiment essentiellement une vocation quand même liée à la migration, donc prévenir l'arrivée de Mexicains sur le territoire des États-Unis, ce qui peut paraître paradoxal parce qu'en même temps, il y a une population illégale de Mexicains aux États-Unis qui est considérable et qu'on peine justement à contrôler. On espère que le mur permet de réguler ça. C'est peut-être une illusion, mais le fait est que c'est un exemple vraiment très impressionnant de l'arrivée d'une infrastructure qu'on avait cru disparaître avec la chute du mur de Berlin.
Avec aussi un but qui s'est retourné, hein, vous me disiez en préparant cette émission, à l'époque du mur de Berlin, du rideau de fer, c'était pour empêcher les gens de sortir quelque part.
Tout à fait, il y a un côté, une ironie de l'histoire, une de plus, hein, les murs qu'on construit aujourd'hui le plus souvent visent à empêcher les gens d'entrer, le mur de Berlin visait à empêcher les gens de sortir.
Quel mur est le plus symbolique aujourd'hui de ces édifices ?
Alors je pense quand même que c'est celui dont on vient de parler, la frontière entre le Mexique et les États-Unis, parce que c'est un pays très développé, les États-Unis qui construit un mur, alors que justement le mur semble être une infrastructure archaïque. On pense à la muraille de Chine ou au mur d'Adrien peut-être de l'Empire romain, mais on n'a pas l'impression que c'est un outil moderne. Il y a toute une série d'autres murs dans le monde. Il y en a à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, entre l'Inde et le Pakistan, en Afrique. Mais c'est vrai que celui qu'a construit les États-Unis est peut-être le plus emblématique.
Oui, alors on a une carte sous les yeux, hein, une quinzaine de murs en tout, il y en a peut-être d'autres, mais enfin il y a aussi des murs un peu virtuels, des murs qui maritimes par exemple. Hein, donc c'est aussi un instrument, le mur, de politique interne. On revient aux États-Unis peut-être, c'est aussi l'occasion de dire, regarde, parce que c'est perméable, on le sait, hein, surtout à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais c'est aussi un instrument pour dire, voyez, on agit.
Je crois que c'est effectivement aussi une des évolutions du phénomène des murs, c'est que ils ont un sens pour dire à la population du pays qui construit le mur, nous faisons quelque chose. Le gouvernement fait quelque chose, regardez, il fait un mur. Évidemment, le mur a sa matérialité, hein. Il y a des miradors, il y a des palissades. Donc, on a l'impression qu'on agit. Et en politique migratoire, souvent, le reproche qui est fait au gouvernement, c'est de ne rien faire, de laisser faire. Donc, le mur a cette vertu, qui est peut-être en partie illusoire, hein, de donner l'impression d'une action très forte et très décidée. Je crois que dans l'analyse de l'érection du mur par l'administration Bush, il y a cette composante politique intérieure qui doit être prise en compte, qui doit être prise en compte d'ailleurs dans toutes les tentatives de contrôle renforcé de la frontière, aussi pour la Méditerranée par rapport à l'Europe, donc les tentatives pour freiner l'immigration clandestine à travers la mer Méditerranée, aussi sur la frontière suisse quand on essaye de mieux contrôler la frontière. Il y a une vocation de politique migratoire au sens étroit, et puis il y a une vocation de politique intérieure.
Et puis le mur, par contre, a alors une image dévastatrice. Hein. C'est auprès des opinions publiques, peut-être pas forcément internes, mais enfin à l'extérieur. On pense au mur, par exemple, entre Israël et la Palestine. Ça provoque des dégâts considérables à l'image d'Israël.
Alors dans le cas d'Israël, c'est très clair. En même temps, pour ce qui est de la militarisation de la frontière de l'Europe, elle est appréciée par une partie de la population européenne qui s'estime être assiégée par des flux de migration. Donc, effectivement, dans certains contextes, le mur est quelque chose qui plaît.
Merci beaucoup, Étienne Piguet, d'avoir été avec nous quelques instants. Je rappelle que vous êtes professeur de géographie à l'Université de Neuchâtel. Vous êtes spécialiste des migrations. Excellente soirée.
Merci.
Le match Sion-Servette des jeunes de moins de 16 ans a été annulé aujourd'hui. Plusieurs juniors récemment transférés au FC Sion n'ont pas été qualifiés par l'Association Suisse de Football. Le club valaisan estime qu'il s'agit là d'une vengeance dans l'affaire qu'il oppose aux dirigeants du football suisse, Pascal Turner.
Oui, selon le communiqué du FC Sion, ce sont plusieurs dizaines de jeunes footballeurs et également des joueuses de son secteur junior élite qui sont touchés, transférés cet été du Team Valais. Ils n'ont pas reçu leur nouveau passeport les autorisant à jouer sous les couleurs sédunoises. Il faut préciser que les équipes M14 à M21 ainsi que l'équipe féminine du FC Sion appartiennent non pas au secteur associatif du club mais à son secteur professionnel, soit l'Olympique des Alpes SA. L'association suisse de football estime manifestement que l'interdiction de transfert édictée par la FIFA à l'encontre du FC Sion touche également les classes juniors. La SF vient donc prêter main forte à la Swiss Football League et à la FIFA dans le conflit contre le FC Sion de Christian Constantin et lui donne des allures de guerre totale, avec une escalade inquiétante puisque des footballeurs de 15 ans en sont désormais les victimes collatérales. Avec des mineurs pris en otage dans un conflit entre adultes, on a aujourd'hui le sentiment que les acteurs de cette affaire commencent à perdre le sens des proportions.
Ouais, merci Pascal Turner. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal des sports. Mais on va faire un tout petit tour par le stade de Tourbillon parce que comme je le disais tout à l'heure, eh bien, en ce moment même se déroule le match Sion-Lucerne. Bernardin Lehmann, vous êtes en direct de Tourbillon avec une question peut-être. Est-ce que les 6 nouveaux joueurs du FC Sion, les 6 transférés qui ont fait couler tant d'encre, sont-ils sur le terrain en ce moment?
Mais pas tous évidemment, mais il y en a 2, donc pour la première fois, eh bien c'est une première aujourd'hui, en l'occurrence Pascal Feinduno, le Guinéen, ainsi que Mario Mouch, le Luxembourgeois, deux joueurs qui étaient déjà sur la feuille de match, rappelez-vous, il y a une semaine, samedi dernier, au Parc Saint-Jacques de Bâle, qui avait dû être retiré dans les minutes précédant le match. Eh bien, ces deux joueurs sont désormais sur le terrain, d'ailleurs on les voit assez actifs, et puis deux autres joueurs sont remplaçants, en l'occurrence Gabri et José Gonçalves. À noter qu'au score, eh bien ça se passe mal pour Sion, puisque c'est Lucerne qui a ouvert la marque par Winter à la 5e minute.
Merci Bernardin Lehmann, on vous retrouve pour la suite de cette rencontre dans nos différents rendez-vous et durant le journal des sports. À Zurich, le cortège de la Street Parade s'est ébranlé cet après-midi sur le coup de 14h. Les 29 Love Mobiles défilent le long de la rade zurichoise pour la 20e fois. Il fait chaud, il y a du soleil. Rouven Guessa, vous êtes sur place, quelle est l'ambiance?
Oui, alors si vous aimez la foule, c'est clairement sur les quais zurichois qu'il fallait venir cet après-midi. Impossible de bouger aux abords du cortège. Il y avait 29 Love Mobiles cette année. Vous savez, ces chars qui diffusent de la musique tout au long du parcours. Le tout dans une ambiance très colorée. On pouvait croiser toutes sortes d'oiseaux rares aux cheveux bleus, roses, des torses nus, des jupes ultra courtes, voire transparentes. Les tenues traditionnelles des technophiles, en fait. Mais certains initiés regrettent une part de vulgarité dans certains déguisements. Mais voilà, la Street Parade, c'est la fête de la tolérance. Alors on dirait que tout est permis. Et vous le savez, c'est la 20e édition. Et c'est ce genre d'événements comme la Street Parade ou la Love Parade de Berlin qui ont contribué à populariser la musique électronique. Et 20 ans après la première Street Parade, les plus anciens ont tendance à regretter cette nouvelle forme de culture de masse. C'est vrai que, vu l'affluence, on croise de loin pas que des passionnés. Surtout, on peut aussi entendre toutes sortes de musique ici, y compris de la musique très commerciale. Et il y a encore tous ceux qui viennent pour célébrer Carnaval en plein été.
Revenez, est-ce qu'on peut déjà chiffrer l'affluence de cette 20e édition?
Non, c'est difficile hein, de donner des chiffres pour l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas atteindre le million de visiteurs. Les organisateurs espéraient avoir entre 600 et 900 000 personnes. Ce sera à voir dans les prochaines heures. En tout cas, vous l'avez dit, il fait beau. Et comme la Love Parade de Berlin n'est plus organisée depuis le drame de Duisbourg l'année passée, toutes les conditions sont là pour qu'il y ait un maximum de monde qui va permettre aux organisateurs de voir à quel point cette Street Parade est encore populaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les organisateurs doivent boucler sur un bénéfice, sinon ils ont déjà prévenu qu'ils redimensionneraient la Street Parade en beaucoup plus petit.
Oui, ça pose la question des relations entre la ville de Zurich et les organisateurs, hein. Difficultés financières. Pourquoi la ville ne veut pas mettre la main au porte-monnaie?
Non, il y a des discussions qui ont lieu chaque année pour ça. Il faut savoir que sur un budget d'1 700 000 francs, la ville demande 300 000 francs. Et les responsables trouvent que c'est beaucoup trop. Ils s'appuient pour dire ça sur l'autre grande manifestation zurichoise, le Sachsenleuten, en avril. Lui ne doit rien reverser à la ville, mais c'est vrai que le Sachsenleuten attire nettement moins de monde. Et à l'heure où il n'y a pratiquement plus de manifestations de ce genre, hein, comme la Street Parade, tout le monde ici à Zurich s'accorde à dire, même la ville, hein, que la Street Parade a un impact positif gigantesque sur pour le rayonnement de Zurich à travers le monde. Pour les organisateurs, là, c'est une raison de plus pour mettre la pression sur la ville et pour que les autorités municipales fassent un geste et renoncent, en fait, à ces 300 000 francs.
Rouven Guessa, merci. Vous étiez en direct de Zurich. C'est dans 2 heures environ que le palmarès du festival de Locarno va être révélé, une édition riche en stars, puisqu'on a vu défiler quelques monstres sacrés du 7e art, dont Harrison Ford et Daniel Craig. Nous avons reçu tout à l'heure Olivier Perre, le directeur de la manifestation, depuis nos studios de Locarno. Il tire un premier bilan de sa 2e édition personnelle et confirme l'information comme quoi le nombre de spectateurs est en hausse de 10%.
Oui, je confirme, elle était très bonne, en raison... J'ose espérer en raison de la programmation et des films, et d'une programmation sur la Piazza Grande et assez événementielle, assez exceptionnelle, en tout cas très très mélangée, permettant de découvrir à la fois des films d'auteurs grand public comme Sport de filles ou L'art d'aimer, des films qui étaient à Cannes comme Le Havre d'Aki Kaurismäki ou Drive, des blockbusters américains en première européenne comme Cowboys and Aliens, et puis des films venus du monde entier, que ce soit un thriller scandinave ou hier soir un film qui a beaucoup plu au public qui s'appelle Saya Samurai de Hitoshi Matsumoto et qui est une comédie japonaise qui mêle burlesque et poésie.
Alors, vous l'avez dit, hein, le public a couru, il est venu en nombre, il a apprécié la programmation. Il y avait aussi des stars, hein, il y avait ces grandes stars comme Harrison Ford, Daniel Craig, il y en a eu d'autres, hein, Gérard Depardieu, Claudia Cardinale, Isabelle Huppert. Il y en a eu un peu
Bruno
plus
Gantz.
Que... Pardon ?
Et Bruno Gantz.
Voilà, Bruno Gantz. Il y en a eu un peu plus que d'habitude à Locarno, plus que Locarno nous avait habitués à accueillir ce nombre de ces stars. Est-ce que c'est une voie dans laquelle vous voulez poursuivre ?
Oui, bien sûr, je pense que dès l'année dernière, en fait, dès l'édition 2010, nous avions souhaité faire venir certains acteurs ou certains réalisateurs, mais c'était ma première édition, je rodais un petit peu la machine, on va dire, j'étais pas en repérage, mais disons que on avait d'abord surtout procédé à des grandes modifications par rapport à la structure, à l'organisation du festival et surtout par rapport à l'image, au message qu'on voulait donner aux gens par rapport à Locarno. Dire que Locarno, ça reste évidemment et ça doit rester le festival de la découverte du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant, des jeunes cinéastes du monde entier, et une fois de plus, le festival l'a prouvé cette année avec beaucoup de premières œuvres de grande qualité et beaucoup de découvertes. Mais c'est aussi, ce n'est pas un festival spécialisé, ce n'est pas un festival qui met en valeur, qui dont la mission est de mettre en valeur un certain type de cinéma. C'est un grand festival international, donc c'est le festival de tout le cinéma. Et c'est un festival ouvert au public, ce qui est aussi quelque chose d'assez rare si on le compare avec d'autres grands festivals compétitifs. Donc ce grand public, il faut à la fois lui montrer des œuvres nouvelles, novatrices, et lui faire découvrir des choses, mais aussi proposer des films plus spectaculaires, plus divertissants. Et la Piazza Grande, et avec quand même 8000 spectateurs, est un lieu où on peut concilier à la fois la qualité, la beauté, la nouveauté, comme le film japonais d'hier soir, et savoir conquérir un public avec du rire, avec des larmes, avec des émotions fortes. C'est aussi ça qu'on attend du cinéma, et c'est aussi ça qu'on peut proposer à Locarno.
Ce petit parfum de croisette, en fin de compte, sur Locarno, c'est ce qui manquait, selon vous ?
Oh ben, je crois que tous les grands festivals de cinéma mêlent l'exigence, la qualité artistique, mais aussi la fête, l'événementiel et la dimension médiatique. C'est important pour un festival qui montre des œuvres qui sont souvent des œuvres difficiles, qui sont des œuvres engagées ou qui sont des œuvres radicales, d'avoir beaucoup de presse, beaucoup de gens de la radio, de la télévision, qui couvrent l'événement et qui couvrent évidemment pas de la même façon la venue d'Harrison Ford qu'un film qui est montré en cinéaste du présent. Mais je pense que cette fenêtre médiatique plus grande aide le festival en général et donc aide les films qui y sont montrés et les auteurs qui y sont découverts.
Vous avez déjà pu mesurer l'impact, justement, on a beaucoup parlé d'Harrison Ford, de Daniel Craig, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les années des stars hollywoodiennes comme ça sur la Piazza Grande. Vous avez déjà mesuré l'impact dans les médias internationaux ?
Oui, l'impact est très grand, évidemment, mais je pense que c'est pas ça dont je suis le plus fier, en fait. Ce dont je suis le plus fier, et ce dont le festival est très fier, c'est que cette présence de stars, cette présence d'événements cinématographiques sur la Piazza Grande n'a jamais été fait contre ou on n'a jamais été privilégié par rapport à la compétition internationale. Et je suis aussi fier, et peut-être même plus d'une certaine manière, du haut niveau artistique et cinématographique de la compétition internationale cette année, des films nouveaux en première mondiale internationale qui y sont découverts, parce qu'on nous avons travaillé pour faire revenir certains auteurs ou pour faire venir certains auteurs, et nous avons fait un travail de prospection qui a porté ses fruits, que de la première européenne de Cowboys and Aliens sur la Piazza Grande. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais que l'identité du festival de Locarno, on la connaît, mais qu'elle n'est pas exclusive et qu'elle peut aussi accueillir en son sein des choses plus hollywoodiennes, plus grand public, plus populaires. Oui.
Cowboys and Aliens, qui a été critiqué, hein, la critique a apprécié modérément, ça vous gêne pas de toute façon, voilà, vous réalisez quelque part un coup et tant pis si la critique derrière n'est pas favorable.
Oui, quand on montre ce film sur la Piazza Grande, c'est sûr, c'est pas pour faire l'unanimité critique et de faire la couverture des cahiers du cinéma ou les premières pages de l'Humanité ou du Temps. En revanche, ce qui est très notable, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été montré en ouverture, c'est qu'un film de science-fiction hollywoodien qui s'appelle Super 8 de J.J. Abrams est un film, par ses qualités cinématographiques, capable de concilier à la fois le grand public. Le film a été un très très gros succès aux États-Unis et il est en train d'en devenir aussi en Europe et dans le reste du monde, et d'intéresser la critique la plus cinéphile, la plus sérieuse. C'est un film qui a fait l'objet d'un dossier et la couverture des cahiers du cinéma, justement, et qui a reçu de la part de la critique cinéphile un accueil en général favorable. Il ne s'agit pas de faire régner l'ordre et la terreur auprès des critiques et de se réjouir qu'ils écrivent des choses bien sur les films que vous aimez, mais en tout cas ça prouve que c'est un film qui a sa place en ouverture dans un festival cinématographique et cinéphilique comme Locarno.
Olivier Père, directeur du festival de Locarno, et on prend des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Berne-Zurich, on circule à nouveau normalement entre les échangeurs de Harkingen et Wiggertal en direction de Zurich. La hausse du franc handicape fortement l'industrie d'exportation de la Suisse. Pour endiguer cette hausse, les patrons envisagent plusieurs solutions, de la baisse des salaires à l'instauration d'heures supplémentaires en passant par des salaires en euros. Or aujourd'hui, dans la Basler Zeitung, Paul Reichsteiner, président de l'Union syndicale suisse, déclare que sa centrale va réclamer des hausses de salaires substantielles lors de la présentation des revendications salariales du 26 août. Aldo Ferrari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité directeur du syndicat Unia. Alors, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, vous, de demander des hausses alors qu'en fin de compte, l'industrie actuellement souffre du franc fort ?
Bon, l'industrie d'exportation ne représente pas l'essentiel des branches d'activité de notre pays, d'une part. Deuxième chose, il y a industrie et industrie. Évidemment, un certain nombre de secteurs industriels sont sous pression, mais il y a aussi d'autres secteurs industriels. On peut passer ici à la chimie ou à l'horlogerie qui s'en sortent mieux. Les publications d'ailleurs des chiffres des multinationales de ces dernières semaines sur les résultats du premier semestre le rappellent. On peut aussi parler de Nestlé. Donc je crois que, encore une fois, et comme on aime à le dire, quand tout va bien, les négociations doivent se faire par branche. Ici, elles doivent aussi se faire par branche. Et il y a des secteurs d'activité dans notre pays qui fonctionnent très bien, qui ont eu d'excellents résultats l'année dernière. Et encore une fois, je pense qu'il est important que la consommation continue. Et le meilleur consommateur, c'est toujours le salarié, puisqu'évidemment, lorsqu'on a un salaire modeste et qu'on a une augmentation, cette augmentation-là est évidemment immédiatement consommée et non pas empilés comme l'ont fait certains grands investisseurs.
Alors on pourrait imaginer, alors Aldo Ferrari, des demandes de hausse dans certains secteurs et pas du tout dans d'autres.
Écoutez, pas du tout. On peut imaginer que dans certaines entreprises individuellement, effectivement, la situation soit difficile et qu'on puisse pas imaginer de hausse de salaire. Mais essentiellement, je pense que des hausses, il peut y avoir partout. Et je pense en particulier aux endroits où on augmente le temps, où on a augmenté le temps de travail. La moindre des choses, ce serait de donner un premier signal. Mais je crois qu'il faut pas faire une généralité. Encore, il peut y avoir quelques cas isolés. Mais de manière générale, ce serait faux. On utilise la difficulté d'une partie de notre industrie d'exportation pour bloquer l'ensemble des salaires de l'ensemble des salariés de ce pays.
Oui, mais si on reste justement sur ces entreprises suisses d'exportation qui ont des soucis par rapport au franc fort, ça mettrait quand même pas sa capacité concurrentielle en péril de venir avec des demandes de hausse, voire de hausse substantielle.
Écoutez, ce qui a mis la capacité concurrentielle de ces entreprises en péril, c'est évidemment d'abord le système financier international, les injections de capitaux dans les grandes banques. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse faire le procès aux salariés de ces entreprises. Je rappelle que ces entreprises, elles sont aujourd'hui souvent des entreprises de pointe, donc elles le sont d'abord aussi par le travail de leurs salariés, et ça serait un peu réducteur de se contenter de dire que c'est la faute des salariés s'ils avaient des revendications salariales dans ce domaine. Je rappelle aussi que quand l'euro était à 1,50 ou à 1,60 dans l'autre sens, les salariés n'ont pas tous bénéficié de ce qu'ils auraient pu bénéficier. Je crois, encore une fois, il faudra être à certains endroits raisonnables. Je crois que les gens le sont et le comprennent. Mais de manière générale, ça serait un signal faux que de donner l'impression que les premiers, encore une fois, à payer seraient les salariés. Je ne pense pas que c'est une bonne image. Je rappelle aussi que notre industrie a parfois de la difficulté à trouver du personnel, et je ne crois pas que ça serait serait le meilleur signal. Mais encore une fois, au cas par cas, les choses auront probablement discuté. Mais pour beaucoup de branches et la majorité des branches dans notre pays, l'année 2010 a été une année exceptionnelle. Elle continue de l'être si on pense au secteur de l'artisanat, de la construction ou certains même secteurs industriels.
Merci beaucoup Aldo Ferrari d'avoir été quelques instants avec nous. Vous êtes membre du comité de directeur du comité directeur du syndicat Unia. Excellente
soirée. Merci.
Faut-il obliger toutes les communes de plus de 3000 habitants à passer au système proportionnel lors des élections? C'est la question à laquelle les Vaudois doivent répondre d'ici au 4 septembre. Et derrière cette question de technique électorale, eh bien, il y a une bataille qui se joue autour de l'identité des petites communes vaudoises. 14 d'entre elles, de plus de 3000 habitants, utilisent encore le système majoritaire pour élire leur parlement. Un système qui prétérite les petits partis et qui est combattu par la gauche et l'UDC. Laissez-nous tranquilles, disent certaines communes, notre système fonctionne et nous ne voulons pas politiser davantage notre village. C'est la voix des partisans du statu quo parmi lesquels on retrouve le PLR. Alors on va en débattre avec vous Gilles Metz, secrétaire politique du PLR vaudois, conseiller communal à Lausanne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous dans nos studios de Lausanne, tout comme vous, Dylan Carlen, vous êtes vice-président de l'UDC vaudoise, conseiller communal à Villeneuve, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, peut-être pour poser le débat, Gilles Mestre, qu'est-ce que ça changerait si on passait au système proportionnel dans ces communes de plus de 3000 habitants? Qu'est-ce que fondamentalement ça changerait pour les électeurs?
La première grosse différence, c'est qu'entre le système proportionnel et le système majoritaire, il y a l'existence de listes de partis. Dans le système majoritaire, les électeurs choisissent des personnes avant tout sur la base de leurs connaissances au sein du village ou de la commune. Et puis dans le système proportionnel, les gens choisissent d'abord un parti et ensuite décide quel membre de ce parti qui est sur une liste il souhaite élire. C'est ça le principal changement.
Donc c'est la politisation des petites communes qui ne le sont peut-être pas encore aujourd'hui.
Exactement. Il y a de nombreuses communes qui ne le sont pas, qui ont décidé de ne pas l'être en 2003 lorsque la nouvelle constitution est entrée. La constitution précisément laisse ce choix et nous sommes partisans de maintenir cette position, de laisser les communes choisir. Il y a de nombreux élus aujourd'hui qui disent si la proportionnelle venait à passer, eh bien je ne me représenterai pas, voire même je démissionnerai parce que je ne veux pas être le petit soldat d'un parti qui me dicte mes positions. Je suis actif dans ma commune et je souhaite y être parfaitement librement. Mmh. Et le PLR ainsi que les Verts libéraux soutiennent cette position parce qu'ils estiment que l'autonomie communale, en l'occurrence, doit primer.
Dylan Carlen, vous êtes membre de l'UDC. On sait qu'il y a une coalition un peu étrange, UDC rose-vert, on va dire. Les partis qui ont intérêt à ce que ce soit la proportionnelle pour pouvoir précisément se... Vous voulez politiser ces petits villages qui vivent comme un long fleuve tranquille, sans combat politique actuellement?
Pas du tout. Non, c'est pas du tout l'objectif. Ça veut dire que l'idée de l'initiative, c'est précisément de pouvoir permettre la mise en place d'un mode électoral qui offre le plus de portes ouvertes. Parce que dans un régime où il y a une élection à la proportionnelle, rien n'interdit de pouvoir présenter des listes d'entente. Il y a beaucoup de communes qui ont des listes citoyennes, des listes indépendantes, hors parti. Avec l'avantage supplémentaire, c'est que si une fronde n'est pas d'accord avec ces listes d'entente, on peut très facilement proposer sa propre liste indépendante. Et ainsi, on offre à la population un meilleur choix, finalement.
Mais en même temps, l'UDC souhaite ce système parce que vous allez pouvoir déposer des listes et donc entrer dans certains conseils communaux où vous n'êtes pas actuellement. Comme d'ailleurs les socialistes à Les Verts.
Alors, une bonne institution, c'est une institution qui permet de vivre avec son temps et de suivre l'évolution politique. Actuellement, dans un certain nombre de communes, effectivement, il n'y a pas de politisation au sens partisan du terme. Et puis, ça peut très bien fonctionner comme ça. Mais avec le système majoritaire, si tout d'un coup le contexte politique devait changer et devait voir apparaître l'émergence de nouveaux partis politiques, il deviendrait dès lors très très difficile pour toute alternative de pouvoir présenter des listes. Avec le scrutin proportionnel, on pourrait très facilement s'adapter à la situation locale.
Ouais, Gilles Mestre, c'est vous qui avez le plus à perdre en fin de compte le PLR. Ces ententes, c'est un peu les bourgeois radicaux libéraux. Alors démystifier ce mythe.
Vous savez, il y a 115 communes qui aujourd'hui appliquent le système majoritaire. Dans ces 115 communes, il y en a peut-être 3 ou 4 dans lesquels il y a effectivement des partis malgré le système majoritaire. Dans toutes les autres, les élus n'ont pas un stempel et un logo sur la tête qui dit ils sont radicaux, ils sont libéraux, ils sont UDC, ils sont socialistes. Donc c'est impossible de prouver aujourd'hui que le système majoritaire nous avantage ou nous désavantage. C'est possible dans quelques exceptions et les initiants font aujourd'hui un faux procès en basant leur argumentation sur des exceptions.
Moi, c'est un faux procès, Diane Carlin.
Non, moi je suis tout à fait opposé à cette politisation patients de ce débat en se disant tiens c'est
alors faut pas, certains pas partis soutenir cette initiative
certains
du PS
partis,
et des Verts, monsieur Carlet.
Certains partis qui sont opposés à une alliance entre guillemets contre nature qui aurait entre l'UDC et la gauche etc. C'est absolument pas le débat aujourd'hui. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'un parlement, puis un parlement a un rôle représentatif et le système proportionnel par excellence est le meilleur système pour
Gilles
représenter
Mestre,
la population.
Avec le système proportionnel, le système majoritaire actuellement dans certaines communes, c'est 30% de gens qui ne sont pas représentés. C'est pas très démocratique.
Écoutez, je sais pas d'où vous sortez ce chiffre. Moi, je constate que 102 000 Vaudois sont privés d'un choix. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Je crois qu'on bafoue le choix de 15 communes plus 16 qui seront bientôt dans les 3 000 habitants. La commune de Blenay, par exemple, qui est aujourd'hui à la majoritaire, a confirmé sa majoritaire. Ce système, donc, il y a une année. On est en train de dire, les initiants avec l'appui de l'UDC sont en train de dire finalement, le vote de Blenay, on s'en contrefiche, donnant aux Vaudois la possibilité d'imposer un seul système à l'échelle du canton. Et je trouve que c'est regrettable. Je crois que le génie local, que la démocratie locale est la base de notre système et qu'aujourd'hui, on est en train de s'asseoir dessus. Il y a d'autres arguments. Je crois que ce qui est important aussi, c'est toute la dynamique des fusions qui se sont déroulées ces dernières années dans le canton. On a moins de 50 communes par rapport à il y a 5 ans. C'est important. Les communes aujourd'hui ont de la peine à trouver des militants, à trouver des gens qui s'engagent. Et on va freiner les fusions parce que forcément, en fusionnant, on atteint ce chiffre miracle, si j'ose dire, de 3000 habitants. Et c'est un seuil psychologique qui va faire en sorte, qui va pousser certaines communes à dire on fusionne.
Vous allez faire peur aux petites communes qui ne voudront pas fusionner, Dylan Kerlan?
Moi, je crois pas. Je crois qu'il actuellement, il y a un petit peu un faux débat. C'est-à-dire 3000 habitants, c'est plus le petit village de campagne. C'est déjà une petite bourgade qui commence à avoir aussi, à sortir simplement de la simple question de gestion du patrimoine communal. On arrive maintenant à des problèmes politiques dans certaines communes.
On parlait de Blenay, c'est presque 6000 habitants. Blenay, ou 5000 et quelques, c'est ça?
5000, sauf erreur. Là, on commence déjà à avoir des questions, des notions politiques qui peuvent entrer en jeu. Mais évidemment, les communes, et c'est pour moi, le véritable sens de l'autonomie communale, c'est que des citoyens pourraient très facilement déposer des listes et accéder aux conseils, dans les conseils communaux, mais sans devoir s'intégrer dans une espèce de parti unique que propose finalement la solution de la liste unique.
Je vous rappelle, Blenay, 61% des habitants ont dit non au système des partis. Il faut entendre ce message du terrain.
C'est une commune.
Des communes, ouais. Et Belmont, par exemple. Belmont, j'en discutais avec le syndic Muheim, 70% des élus aujourd'hui ont moins de 10 ans de domicile dans la commune. Donc, quand vous nous parlez de représentation, de problème de représentativité, c'est faux. Les gens qui habitent depuis peu dans la commune peuvent être élus avec la majoritaire. Les femmes peuvent être élues. On parlait d'absence de femmes. C'est cela. Marel, initiant, dit que les femmes seraient mieux représentées avec la proportionnelle. C'est faux. Des communes qui sont aujourd'hui à la majoritaire ont plus d'élus que d'autres communes qui sont à la proportionnelle, telles que Montreux, Crissé ou Aigle. Donc, je crois qu'on nous fait beaucoup d'esbrouf du côté des initiants, et je crois qu'il s'agit avant tout aujourd'hui d'écouter les communes et d'écouter les 42 municipalités vaudoises qui disent non au diktat de la proportionnelle.
Et c'est les Vaudois qui auront le dernier mot, Dylan Kerlan et Gilles Mestre. Merci beaucoup d'avoir échangé quelques instants avec nous sur cette votation qui aura lieu dans le canton de Vaud le 4 septembre. Excellente soirée à vous. La saison des festivals touche petit à petit à sa fin. Il y a encore quelques rendez-vous, mais les principales manifestations estivales ont eu lieu. Il faut savoir que la Suisse a connu un boom de création de nouveaux festivals ces dernières années. Et pour la première fois, la semaine prochaine, aura lieu une rencontre interfestival dans le cadre des 15 ans du Puy Fornoise Festival. Cette rencontre a lieu sous l'égide de l'association Pezzi, qui fédère des clubs et pas moins de 54 festivals de musique actuelle en Suisse. Nous avons rencontré tout à l'heure Céline Roduit, membre de la coordination de l'association Pezzi Suisse Romande. Nous lui avons demandé tout d'abord de nous expliquer le pourquoi de ce boom du nombre de festivals en Suisse.
C'est vrai que c'est un petit peu étrange de voir émerger, de voir autant de festivals sur un si petit territoire. Une réponse peut-être qu'on peut apporter à ceci serait le contexte de multiculturalisme linguistique en Suisse, qui fait qu'on peut avoir énormément de festivals sur un territoire très très restreint, car les gens vont aller écouter ce qui se passe près de chez eux, et on peut programmer des choses très similaires à une distance finalement très proche.
Trois régions linguistiques, les Allemands, enfin les Suisses alémaniques, voilà. Les Suisses francophones et les italophones. Et en fin de compte, chaque territoire a sa propre organisation.
Alors oui, ça dépend en fait de quel type de festival on parle aussi, parce que on constate qu'il y a éventuellement trois catégories, en tout cas pour ma part, qui sont les festivals plutôt commerciaux. donc qui proposent des têtes d'affiche et qui peuvent finalement être plus ou moins semblables d'un côté ou de l'autre de la barrière de Rushdie, parce que les gens vont finalement aller voir, rester un petit peu dans leur contexte, dans leur coin, pour voir ce genre de têtes d'affiche.
Genre Paléo, Gampels, par
voilà,
exemple.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Gurten Festival, Montreux, etc. Sinon, on peut parler aussi d'autres types de festivals, comme les festivals qui sont plutôt d'animation locale, genre le Bouskers, le festival de la cité à Lausanne, donc qui propose de la musique des artistes plutôt locaux et qui vraiment animent leur ville, donc qui drainent une population vraiment locale, avec des bénévoles aussi qui sont du coin et qui n'ont pas forcément eux de tête d'affiche. Donc ça, ce sont vraiment les festivals de l'association PEDI, donc que l'on fédère et dont on défend les intérêts. Et également un autre type de festival qui sont les festivals de musique plutôt de niche, donc pointus, qui sont aussi des festivals originaux et qui proposent aussi, qui sont vraiment dynamiques, donc au niveau de la scène des musiques actuelles, qui font aussi bouger cette scène. Et puis, donc, eux plutôt drainent une population souvent extérieure, barrière de Rushdie ou pas, peu importe, les gens viennent pour la musique, donc il s'agit plutôt des festivals comme le Kilby, à Düdingen, donc aussi du LUF à Lausanne, le Lausanne Underground Film and Music Festival, et on peut parler aussi de festivals du type électron, donc musique électronique pure. Voilà, donc
est-ce qu'il y a trop, parce que ce paysage il est très riche, hein, est-ce qu'il y a trop de festivals, est-ce que c'est pas un peu l'overdose?
Oui, moi je pense pas, non. Moi je pense que d'avoir beaucoup de festivals sur un si petit territoire peut donner un sentiment de saturation, d'hyper compétitivité. Mais aussi ça apporte une réelle dynamique, je pense, au niveau de la scène des musiques actuelles, donc une originalité dans l'offre musicale et culturelle. Et je pense pas qu'il faut être si pessimiste, à mon avis, parce que ça nécessite aussi pour ces festivals de ne pas faire comme son voisin. Donc, à mon sens...
Se démarquer, être inventif, c'est ça ?
Voilà, absolument. Et puis, ils jouent aussi ces festivals, ce qui est important à dire, je pense, un rôle de défricheur pour les plus grands festivals. Donc, ils sont très, très importants, à mon avis. Ils jouent le rôle que devraient faire parfois les grands festivals, mais qu'ils ne prennent pas tellement de risques. Ils ont vraiment une prise de risque beaucoup plus grande, à mon sens, parce que voilà, ils font jouer des artistes très proches de chez eux, qui sont pas encore tout à fait connus, et qu'on retrouve peut-être plus tard sur la scène de grands festivals.
L'argent, c'est aussi toujours le nerf de la guerre. C'est pas facile, j'imagine. Il y a plein de ces petits festivals qui courent les sponsors. Là oui. Aussi, est-ce qu'il y a pas trop de... Les sponsors sont pas trop sollicités?
Non, moi je pense qu'il y a de la place pour tous. Il faut simplement bien répartir l'argent qui est là. Et souvent, si ces festivals se font un petit peu d'argent, ils le remettent dans l'édition suivante. Je pense que le problème se situe aussi au niveau du bénévolat. Donc tant qu'il y aura des bénévoles motivés dans leur région pour ce genre de festival, il y aura de la place pour tout le monde finalement. Et aussi un petit peu d'argent, bien sûr. C'est un petit peu le nerf de la guerre, forcément.
Alors vous, à l'occasion du 15e anniversaire du Fourneuil Festival, vous organisez la première rencontre interfestival qui est dans votre fédération PEDZI, hein, 54 festivals. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi s'organiser comme ça?
Eh bien, c'était pour renforcer le réseau des festivals, donc qui sont nos membres, et aussi de renforcer le décloisonnement culturel et linguistique, parce qu'il y aura aussi des festivals de Suisse alémanique qui viendront donc parler, de collecter aussi des feedbacks sur les attentes du projet d'échange qu'on a mis en place en début d'année. Donc, ce projet d'échange permet à des festivals de différentes régions linguistiques d'échanger entre eux des savoir-faire, des bénévoles, pourquoi pas, des artistes, de l'infrastructure, etc. Donc, de collecter toutes ces informations-là, et puis d'échanger sur des problématiques liées à l'existence des festivals en Suisse, donc le multiculturalisme linguistique, comme je le parlais tout à l'heure, l'apport des festivals sur la scène des musiques actuelles, aussi vis-à-vis des clubs et des salles de concert qui existent aussi. Et maintenant, les festivals se déroulent également en hiver, plus seulement en été, donc ce qui redéfinit un petit peu la position des festivals sur la scène des musiques actuelles et des clubs finalement aussi.
Est-ce qu'il y a encore de la place, Céline Redu? Est-ce qu'il manque encore un ou quelques festivals en Suisse?
Pour ma part, j'y trouve mon compte avec ce qu'il se trouve sur le marché. On connaît également peu ce qui se fait de l'autre côté de la barrière linguistique, donc je pense qu'il faudrait d'abord vraiment fouiller. Et je pense que dans chaque festival, on pourrait déjà y trouver notre compte si on fouille un petit peu, pour autant qu'on y soit intéressé.
Céline Reduit de l'association PEDZI Suisse Romande. Et à 18h38 sur la première, c'est l'heure du journal des sports avec vous, Pascal Turner. Alors, le FC Sion joue en ce moment un tourbillon contre le FC Lucerne avec donc ses nouvelles recrues.
Oui, effectivement, c'est la mi-temps. Après 45 minutes de jeu, le score est de 1-0 pour Lucerne. Bernardin Alemann, on l'a dit, hein, les nouveaux joueurs du FC Sion jouent pour la première fois, mais en fait, ils ne sont pas décisifs.
Ils ne sont pas décisifs exactement, Pascal Feinduno et Mario Mucci, et pourtant on les a vus, hein, on les a vus assez remuants, ils osent tirer, ils osent aller se créer des possibilités, donc incontestablement, mais ça on le savait déjà, ce sont deux recrues très intéressantes. À noter que deux autres des six transferts, des six fameux transferts dont on se souviendra longtemps, Gabri et José Gonçalves sont également sur la feuille de match, mais ils sont remplaçants, donc ils ne sont pour l'instant pas encore entrés en jeu. 1-0 rapidement de la rencontre, 5e minute, Koukeli, le Lucernois, met le danger. Adrian Winter profite d'une hésitation du gardien Cédunois pour ouvrir le score. Le gardien Cédunois qui est ce soir Kevin Fickenscher pour la première fois de la saison et non pas Andris Vanins qui n'est pas blessé mais qui est remplaçant aujourd'hui. Sion a essayé de réagir à la 12e minute avec une tête d'Adelton sur un corner extrêmement dangereuse et puis quelques instants plus tard c'est Sio, un centre-tir, le ballon qui touche les jambes des défenseurs et finalement ça passe à côté. Sion qui a continué de presser avec notamment Feinduno et puis Mouch qui ont mis le danger, qui ont effectué quelques tirs à eux deux. À noter également un retourné d'Arnaud Buller sur corner à la 33e minute. Et puis tout ça pour vous dire que c'est tout pour les occasions. Vous aurez constaté que je n'ai parlé que des occasions de Sion parce que Lucerne n'a eu qu'une occasion et encore était-ce une occasion. C'était donc le but, l'ouverture du score. À noter que Lucerne est à 10 puisqu'à la 37e minute, Pulic a récolté un deuxième carton jaune. Donc 1-0 pour le FC Lucerne.
Merci Bernardin Lehmann. Un score qui devrait, on l'espère en tout cas pour le FC Sion, qui pourrait évoluer dans la deuxième mi-temps qui va débuter dans quelques instants. Et puis on joue également entre Bâle et Zurich et Bâle mène sur le score de 1-0 également à la mi-temps. En Challenge League entre Stade Nyonnais et Volun, c'est 0-0. Arrow mène 2-0 face à Vaduz et Winterthur mène 1-0 à Kriens. Quant au match Étoile Carouge Bienne, il vient de débuter.
Et puis on l'a entendu au début de forum, aujourd'hui le conflit entre le FC Sion et les instances dirigeantes du football suisse a connu une nouvelle escalade.
Oui, effectivement, le match Sion-Servette des jeunes de moins de 16 ans a été annulé aujourd'hui car plusieurs juniors récemment transférés au FC Sion n'ont pas été qualifiés par l'association suisse de football. Le club valaisan dans un communiqué estime qu'il s'agit là d'une vengeance dans l'affaire qu'il oppose aux dirigeants du football suisse. Alors avec nous en direct de Tourbillon, Bruno Pasquale, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'entraîneur de cette équipe, justement, des M16 du FC Sion. Il n'y avait vraiment pas moyen de jouer cette rencontre?
Non, alors, dans notre contingent, on devait transférer la plupart des joueurs. Ça veut dire plus ou moins 16 joueurs qui doivent être transférés de leur club d'origine au FC Sion pour pouvoir jouer à M16. Donc, c'est le même contingent que l'année passée en M15, simplement qu'au niveau administratif. Pour mettre en ordre les choses, il faut transférer les joueurs sous le FC Sion.
Parce que c'est des joueurs qui faisaient partie du Team Valais jusqu'à présent.
Soit Team Valais, soit FC Sion M15, mais tous les joueurs en M15 ont des doubles licences qui leur permettent de jouer dans le football de base en cas de blessure ou alors du moment qu'ils veulent retourner dans leur club.
Très bien, on comprend bien. Comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie par vos jeunes joueurs?
Ben c'est de la tristesse, c'est de la déception. Ils étaient prêts, ils ont, c'est des jeunes qui ont beaucoup travaillé pour se préparer pour démarrer ce championnat. Et puis c'est toujours difficile d'aller expliquer aux jeunes qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas commencer un championnat parce qu'au niveau administratif, on n'a pas le feu vert.
Et quelle va être votre réaction maintenant? J'imagine que dès lundi, vous allez vous battre pour obtenir pour ces jeunes joueurs le droit de jouer, éventuellement la justice civile, comme l'ont fait Pascal Feinduno et compagnie pour la première équipe.
Alors je pense que là, au niveau du club, on va être traité de la même manière. Hein. On va faire tout ce qu'il faut pour que ces jeunes puissent démarrer leur championnat comme tout le monde. Maintenant, nous, à notre niveau, notre équipe, on continue à s'entraîner, on continue à se préparer et à garder le moral pour pouvoir travailler sereinement.
Merci Bruno Pasquale. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur des M16 du FC Sion.
Merci.
En cyclisme, Matteo Bonneau a remporté la 5e et avant-dernière étape de l'Eneco Tour à Genk en Belgique.
Oui, l'Italien faisait partie d'un groupe de 3 attaquants qui ont finalement résisté de justesse au retour du peloton. Au général, le Norvégien Edvald Boasson Hagen a conservé 12 secondes d'avance sur le champion de Belgique Philippe Gilbert. Et puis les pilotes suisses étaient en verve lors des essais qualificatifs du Grand Prix moto de République tchèque. C'est Thomas Lüthi en moto 2 qui a montré la voie en prenant la 4e place sur la grille de départ. Les deux autres Helvètes en lice partiront sur la 4e deuxième ligne, Randy Krumenacher en 10e position, Dominique Aegerter. 12e, Dani Pedrosa a dominé les essais en catégorie moto GP. Et puis en 125 cm3, c'est l'Espagnol Nicolas Terol qui a survolé les qualifications. Le jeune Neuchâtelois Julian Pedone n'a pu, quant à lui, faire mieux que le 29e chrono.
Et plus de 3000 coureurs et coureuses prendront demain matin le départ de Sierzinac.
Oui, le succès populaire de la doyenne des grandes courses de montagne ne se dément pas depuis 1974. Un succès qui est aussi celui du mélange entre les meilleurs spécialistes du monde et les participants entre guillemets populaires. Le fribourgeois Jean-François Cuenet a remporté Sierzinal en 1992. Il ne courra pas demain, mais il sera tout de même acteur de cette 38e édition.
Enfin, acteur, c'est un grand mot. Je serai présent sur le parcours. Je vais dormir à Navas, 8 km environ avant la fin du Sierzinal. Puis je vais encourager des amis, ravitailler et puis regarder passer les bons et les moins bons.
Alors justement, les bons et les moins bons, pour vous qui avez gagné déjà Sierzinal, d'avoir tous ces entre guillemets amateurs, joggeurs du dimanche sur le parcours, c'est pas un peu gênant ?
Gênant pour les coureurs ? Non, pas vraiment. Sur la fin, c'est clair que les coureurs de l'élite rattrapent les marcheurs qui sont partis à 5h du matin. Mais en général, ils sont très coopératifs, ils laissent le passage. Et puis, ça se passe en général très bien. Il n'y a pas trop de soucis. Et puis, c'est toujours agréable de courir et puis de rencontrer, de rattraper des gens qu'on connaît, qui nous encouragent. C'est toujours, ça rend la course un peu moins solitaire, je dirais.
Qu'est-ce qui différencie Sierzinal des autres grandes courses de montagne ? C'est l'ambiance ?
L'ambiance, c'est vrai que c'est une ambiance assez particulière. C'est une course quand même longue. Il y a passé 2000 mètres dénivelé. Il faut gérer la distance. Il faut gérer, c'est pas sur un parcours totalement goudronné. C'est des petits sentiers. Il y a des pierriers. Il faut être assez agile. Il faut gérer tout ça. En plus, il y a le panorama si le temps est découvert, qui est magnifique. On a la vue sur tous les 4000 du fond du Val d'Anivier. Tout ça, c'est une ambiance particulière. Il y a l'arrivée. Depuis le début, il y a une cantine. Les gens se retrouvent dans la cantine, mangent ensemble. Ensuite, il y a toujours un petit concert. Il y a la cérémonie protocolaire qui est toujours très, très bien. Très bien, qui a toujours une bonne ambiance, donc c'est vrai que c'est assez particulier.
Est-ce que cette ambiance pourrait être menacée par une professionnalisation de la course et des coureurs ?
Non, je crois pas, parce que c'est quand même des courses qui restent, somme toute, assez... où il n'y a pas d'argent, il n'y a presque rien à gagner. Enfin, je crois pas que ça peut casser cette ambiance-là. Non, je crois pas que ça peut beaucoup changer. Après, peut-être que les coureurs de l'élite de ce moment-là, par rapport à il y a 20 ans en arrière, sont peut-être un petit peu moins festifs. Et peut-être qu'ils... Nous, à l'époque, je me rappelle, on faisait ce qu'on appelle la troisième mi-temps, quoi. On buvait à l'arrivée, on faisait une jolie fête. Peut-être maintenant, ça s'est peut-être un petit peu perdu, mais c'est pas sûr.
Ok, à vérifier demain alors.
À vérifier demain, exactement.
Voilà Jean-François Cuenet, vainqueur de Sierzinal en 1992. Il sera demain sur le parcours de cette 38e édition. Et puis, la météo ne s'y prête pas forcément, mais on va parler deux mots hein, de hockey sur glace. Ça se déroule au Sentier, c'est les Hockeyades. La finale pour la 5e place de ce tournoi traditionnel a vu la victoire de Fribourg-Gotteron sur Lugano 3-2. Et puis en ce moment se dispute la finale pour la 3e et la 4e place entre le Dynamo Minsk et le HZ Litvinov. Et puis la finale de ce soir sera 100% romande entre Genève Servette et le Lausanne Hockey Club.
C'était le journal des sports de Pascal Turner. Et à presque 18h48, c'est l'heure d'un autre journal, celui du web du samedi, Écran Total, présenté cette semaine par Yana Medro.
Sur l'un des points de la carte, vous pouvez par exemple lire le témoignage d'un couple en train de dîner dans un restaurant chic de Notting Hill. Tout à coup, la vitrine a explosé. Des voyous sont entrés pour dérober aux clients leurs bagues, leurs téléphones portables ou encore de l'argent.
C'est la carte interactive de la semaine, la plus complète et la plus fiable sur les émeutes en Angleterre. Un travail de titan signé James Cridlen, repris par The Guardian. L'expert de la sécurité Kaba est-il si sûr ? Des pirates ont trouvé une faille sur ses poignées de porte, utilisées notamment au Pentagone. Et puis, le flop de la semaine nous rappellera qu'Apple n'a pas toujours connu que des succès. Les médias avaient cette semaine les yeux braqués sur l'Angleterre et ses émeutes, mais pour être au plus près des événements, c'est sur le web qu'il fallait être. Un ancien journaliste de la BBC, James Cridland, a réalisé une carte en temps réel des événements, alimentée par des centaines de témoignages publiés sur les réseaux sociaux, un travail de référence relayé par le quotidien The Guardian.
Il y avait beaucoup de rumeurs autour des événements qui étaient en train de se dérouler. Et j'ai décidé qu'il serait utile de vérifier les faits et également les lieux où se déroulaient les troubles. J'ai donc réalisé cette carte en suivant les informations relayées par la BBC et Sky, mais aussi en regroupant un nombre important d'informations sur les médias sociaux comme Twitter. Nous avons maintenant des témoignages qui ne ressortent pas nécessairement dans les médias de masse.
Qui a poussé les émeutiers à passer à l'acte? Comment se sont-ils organisés? Très vite, la presse anglo-saxonne a trouvé un coupable idéal, BBM, le service de messagerie gratuite des smartphones BlackBerry, Magali Philippe.
Selon The Guardian, mais aussi The Telegraph, les jeunes émeutiers privilégient ce système de communication pour se fixer des rendez-vous et cibler des lieux à détruire, car il leur permet une plus grande discrétion que les SMS. Les BlackBerry Messengers sont en effet protégés. Il faut obtenir le code personnel de son interlocuteur pour lui écrire. Et comme ils transitent par Internet et non par le réseau téléphonique, ils sont beaucoup plus difficiles à tracer et donc à intercepter. Réagissant à ces accusations, Research in Motion, le fabricant de la marque canadienne, a déjà déclaré qu'il coopérerait avec les autorités de police, sans préciser toutefois de quelle manière. Il marche en effet sur des œufs, car c'est bien la protection des données de ses clients qui est en jeu dans cette affaire.
Et jeudi, devant les députés, le Premier ministre David Cameron annonçait une surveillance accrue des réseaux sociaux, mis eux aussi sur le banc des accusés après les émeutes. Kaba est une entreprise zurichoise à la pointe dans le secteur de la sécurité. Ses serrures sont réputées inviolables. Le Pentagone utilise d'ailleurs ses poignées de porte magnétiques, mais des hackers ont réussi à trouver une faille lors de leur grande messe, le salon DEFCON à Las Vegas. Décryptage de ce piratage avec Raphaël Grand.
Le pirate plante un petit canif dans le système électrique situé au-dessus de la poignée. En touchant un point précis, la sécurité tombe. Après plusieurs sollicitations, Kaba a finalement daigné nous répondre au sujet de ce piratage. Une réponse par écrit qui précise que les poignées incriminées sont distribuées uniquement aux États-Unis. Pas de danger en Suisse. De plus, le nombre de produits vendus est très limité, ce qui ne devrait pas, je cite, avoir de conséquences significatives sur les performances du groupe Kaba. Fin de citation.
Les news de la semaine. Apple 1, Samsung 0. La firme à la pomme vient de remporter une première bataille face aux Sud-Coréens sur le volet des tablettes. L'Europe, à l'exception des Pays-Bas, a interdit la commercialisation de la nouvelle version de sa Galaxy Tab, une copie de l'iPad selon Apple. Si tu utilises Facebook en prison, ton compte sera fermé. C'est l'accord passé entre l'entreprise de Mark Zuckerberg et l'administration pénitentiaire californienne. Selon elle, plusieurs détenus se sont servis du réseau social pour continuer leurs activités criminelles derrière les barreaux. Facebook n'existera plus le 5 novembre. L'annonce dans une vidéo signée des désormais célèbres pirates Anonymous a fait le tour du monde. Mais c'était un fake, c'est un canular, ont répliqué les vrais Anonymous sur leur Twitter. Le plongeon de la Société Générale à la Bourse, dû à une rumeur d'une faillite sortie dans la presse britannique, mais surtout relayée par le compte Twitter d'une journaliste de Reuters, qui a malgré elle contribué à amplifier la fausse information. Et puis la Chine contre-attaque, régulièrement accusée d'être à l'origine de cyberattaques à travers le monde, le gouvernement affirme dans un rapport que le pays est la cible de 500 000 attaques informatiques par an, dont plus de la moitié provient de l'étranger. Il y a aussi des flops dans la galaxie multimédia. Nicolas Nova, chercheur et collaborateur de Lyft, les décortique chaque semaine au micro de Pierre Crevoisier. Aujourd'hui, un échec signé Apple. Le Newton, ça vous dit quelque chose ?
Apple, qui est une société qui est plutôt reconnue comme sortant des produits plutôt à succès, a tout de même échoué plusieurs fois dans son histoire. Et si on remonte au début des années 90, il y avait un produit qui s'appelait Newton, qui était un assistant personnel portable, tactile, qui était censé être révolutionnaire et qui a été un échec pour plusieurs raisons, à la fois parce qu'il était énorme, il tenait pas dans la poche, son ergonomie était déplorable, mais également pour des raisons techniques. La reconnaissance d'écriture était pas terrible par rapport à son concurrent Palm à l'époque. Et donc Apple a finalement échoué avec cette technologie et a appris ensuite de ses déboires l'importance de l'ergonomie, du design des interfaces, et a tiré finalement toutes ses leçons en abandonnant la reconnaissance de caractère, en utilisant ses brevets d'interface tactile multitouch, Apple a réussi à aller au-delà des ennuis qu'il avait eus une quinzaine d'années auparavant.
Les flops de Nicolas Nova à retrouver dans son livre publié aux éditions FIP et tous les samedis dans notre rendez-vous web de l'été.
Et dans le prolongement de ce journal du web, j'accueille sur cette antenne Laurent Creton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de la Sorbonne à Paris, vous êtes aussi directeur de l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel. Et alors on a parlé tout à l'heure en début de notre émission du festival de Locarno qui se termine ce soir. Et cette année, pour la première fois Locarno, eh bien davantage de films projetés ont été tournés en numérique par rapport aux 35 mm. Est-ce que ça vous étonne ou bien c'est la tendance générale de tous les festivals ?
Alors pas vraiment, c'est-à-dire que cette année marque une bascule. Ça veut dire que les deux normes coexistent dorénavant et très largement, et qu'il revient aux réalisateurs, aux producteurs, finalement de faire le choix entre tourner en 35 mm et tourner en numérique. Mais il est vrai que l'innovation numérique est de très grande ampleur. On évoquait à l'instant sur votre antenne les innovations technologiques d'Apple. Il est clair que le cinématographe, on pense au Frère Lumière, on pense à Edison et à tant d'autres contributeurs à cette innovation originelle. Mais depuis lors, depuis plus d'un siècle, il y a eu énormément d'innovations, le son, la couleur, le cinémascope. Mais on peut dire que là, c'est une innovation de grande ampleur, puisque cela pourrait se traduire par l'abandon progressif du support photochimique qui a prévalu pendant plus d'un siècle au profit de normes numériques.
Avec quelles conséquences ? Est-ce que c'est moins cher, par exemple, de tourner en numérique ? Ça favorise les jeunes créateurs, par exemple ?
A priori, cela semble moins cher, c'est-à-dire que le matériel est moins coûteux, c'est surtout le coût de la pellicule qui n'est plus à supporter, mais cela dépend bien sûr du type de matériel choisi. Est-ce que c'est une caméra DV, grand public, haut de gamme, que l'on peut utiliser ? On pense à Alain Cavalier qui avait tourné le superbe film Irène, ou bien est-ce qu'on utilise une caméra Sony dernier cri, hyper sophistiquée, et ça peut coûter relativement cher. D'une part en matériel, ce matériel a une obsolescence assez importante, mais aussi en maîtrise finalement de l'outil, avec d'autres effets pervers possibles, c'est la tentation de tourner davantage, ce qui se traduit par une augmentation du coût et de la longueur du montage, et également de se dire qu'après tout, en tournant en numérique, si la prise n'est pas fameuse, on pourra toujours l'améliorer au moment de la post-production. En la post-production, c'est très coûteux, donc a priori c'est moins cher, mais disons qu'il faut y être quand même attentif, ça dépend vraiment de la façon d'utiliser cette nouvelle technologie.
Ouais, Laurent Creton, et j'imagine qu'au niveau des salles, hein, parce que c'est quand même là où pour l'instant le cinéma est encore projeté, est-ce que ça va changer quelque chose ? J'imagine qu'ils vont devoir s'équiper, ça va être des investissements considérables.
Disons qu'à ce niveau-là, la transformation est beaucoup plus lourde, avec des conséquences moins maîtrisées. Pour ce qui est de la production, cela fait longtemps qu'on utilise le numérique pour faire des effets spéciaux, et actuellement, bon, le réalisateur peut choisir le numérique ou bien le photochimique. Alors que pendant plus d'un siècle, la norme 35 mm photochimique a prévalu. Le fait pour une salle de cinéma de devoir investir dans le domaine, disons, d'une cabine comportant du numérique, c'est extrêmement cher. Ça ne veut pas dire que cela va se traduire par une augmentation de la fréquentation. Disons que l'avantage pour l'industrie, c'est de faire des économies de coûts de logistique parce qu'il n'y a plus besoin de bobines. Mais la transition n'est pas si aisée, avec une conséquence qui peut être assez dangereuse, c'est d'aller vers une exploitation à deux vitesses, c'est-à-dire des multiplexes, des grands circuits, des salles qui ont les moyens de s'équiper, pendant que d'autres n'y parviendraient pas.
Oui, les petites salles de quartier ou les petites salles de village. Il y a aussi là peut-être la question, vous savez qu'en Suisse, il y a la Cinémathèque Suisse qui conserve énormément de bobines. Au niveau de la conservation, est-ce que ça va poser un problème, conserver ces films au numérique ?
Mais oui, parce que très paradoxalement, le grand public pourrait s'imaginer que le numérique garantit mieux la conservation. Il n'en est rien. On peut certes garder sur des disques durs des mémoires de films, mais il faut les rénover régulièrement. Si bien que très paradoxalement, dans l'état actuel des choses, les meilleurs spécialistes, et ils ont commencé à le faire, considèrent que même lorsqu'on tourne en numérique, la meilleure façon de le stocker, de le garder dans la longue durée, c'est de le de le transposer sur un support photochimique et de l'entreposer dans des lieux très préservés en termes de température et d'hygrométrie.
Les bonnes vieilles méthodes. Merci beaucoup, Laurent Cruton, d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir. Excellente soirée.
Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir.
Et on prend des nouvelles du temps avec la météo. Stéphanie Collère.
La soirée va être douce et le ciel cette nuit sera en partie découvert. Demain, en début de journée, le temps sera encore bien ensoleillé, puis on verra de nombreux passages nuageux arriver par l'ouest. En deuxième partie de journée, il y aura des averses ou des orages. Ils toucheront le relief en premier, ensuite ils déborderont en plaine et enfin les précipitations se généraliseront en cours de nuit. Les minima seront proches de 14 degrés, les maxima se situeront entre 26 et 28 degrés. L'isotherme du 0 degré s'abaissera jusque vers 3700 mètres d'ici à la soirée. Un fort vent du sud-ouest soufflera en montagne. Il sera modéré en pleine l'après-midi. Lundi matin, le ciel sera changeant avec des averses résiduelles. Les dernières tomberont dans les Alpes et le long des Préalpes. Ensuite, les éclaircies seront de plus en plus longues. La journée sera un peu plus fraîche avec un maximum de 23 degrés.
La météo avec l'exposition Van Gogh, Bonnard, Valoton à la Fondation de l'Ermitage à Lausanne.
Dans le canton de Vaud, le trafic est alterné entre les Diablerets et le Cépet suite à un accident et les opérations de secours et de dépannage sont en cours et devraient durer jusqu'à 20h environ. C'est la fin de ce forum. Excellente soirée à tous.